Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, j'évoquerai la vie au manoir. En effet, dans le Perche étant une des régions où il y a le plus de logis, on en compte plus de 400, également des maisons des champs. Nous retrouverons avec l'auteur d'un livre sur les manoirs, nous nous retrouverons justement autour de la vie au manoir, et cela à propos d'un livre sur ce sujet, un livre qui s'appelle « Manoir du Perche et Maison des Champs ». C'est un livre qui est édité par Elétrave, et Éric Ivard en est l'auteur, que je suis contente de recevoir aujourd'hui. Éric Ivard, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, dans une première émission, nous avons évoqué ce qu'était un manoir. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais que nous rendions compte de ce qu'était la vie au manoir. Alors, justement, peut-être ma première question, eh bien, comment était le logis seigneurial?
Alors, le logis seigneurial peut avoir de nombreuses formes, petit, très grand, rez-de-chaussée, un étage, deux étages. Peut avoir une cave
qui
ou pas de cave.
Qui n'était pas toujours présente, oui.
Exactement. Tout dépend aussi de la nature du sol. Lorsque le manoir est construit au milieu de l'eau, oui, bien évident que la cave est impossible.
Oui. Alors, vous connaissez des manoirs, justement, où il y a des caves?
Oui, il y a de très belles caves à la Gaubertière, toujours, oui. À la Rouge. Il y a de très belles caves à l'Engenardière. Alors, les caves ne sont pas toujours sous l'ensemble du logis.
Oui. D'ailleurs, en fait, même les maisons de ferme n'avaient pas de cave.
Pas toujours, pas
non,
toujours.
Non, c'était assez rare. Alors, il existe différents types de logis. Des logis droits, par exemple, d'autres formes.
Alors, le logis droit est peut-être le logis le plus classique.
Oui, à la Lubinière.
À la Lubinière. Oui. On peut avoir le logis aussi en T.
Oui.
C'est-à-dire donc avec un grand corps de logis coupé à l'arrière par une partie plus petite.
Oui.
On peut avoir le logis en L.
Oui.
Et puis à la fin du XVIe siècle, il y a des types de logis qui vont apparaître, ressemblant un petit peu à d'anciens donjons, des gros logis circulaires ou carrés.
Oui.
Circulaires tels qu'au Royau, à la Tarénière, à Préau.
En forme de pavillon aussi.
Oui, le carré à la Proutrie, à Avezé, près du Teil.
Et puis aussi, souvent un cellier.
Oui, alors quelquefois, c'est une des pièces du rez-de-chaussée.
Oui.
Mais ça peut être aussi une pièce qui est construite, qui s'appuie sur un des murs de pignon du logis.
Oui, donc ça c'est la forme de la maison, la forme du logis. Alors sur ces logis, il y a également souvent des chevronnières. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que des chevronnières?
Alors sur les murs de pignon,
oui.
Couronnant donc ces murs, il y a des chevronnières en pierre,
oui.
Qui permettent ou qui évitent surtout l'infiltration d'eau,
oui.
Dans l'épaisseur de ces murs de pignon.
Oui.
Et ces chevronnières sont souvent donc décorées de flamèches léchant un peu le ciel.
Oui.
Ou dans les parties vers l'entablement, vers la corniche.
Alors l'entablement?
Alors c'est la corniche. Alors ça couvre les murs goutreaux. Donc le mur de devant, le mur de derrière.
Si oui, c'est ça. Voilà. D'accord.
Et sur ces chevronnières, elles peuvent être, donc il y a ces fameuses flammes ou ces choux frisés, et elles sont très souvent terminées.
Expliquer.
Alors le chou frisé est la partie supérieure où les deux chevronnières se retrouvent, et c'est la partie qui colle à la cheminée très souvent.
Oui.
Voilà. Et tout ça peut faire un ensemble.
Oui, exactement.
Et tout se termine aussi au niveau de l'entablement par des pas des gargouilles mais des chimères, des décors.
Oui. Alors Où peut-on trouver les plus belles chimères?
Alors, il y en a de jolies qui sont à la bretonnerie, à Mâle. Même si le logis a été très transformé au 19e siècle, oui. Les chimères sont très, très, très belles. Elles ressemblent un petit peu à celles qu'on peut trouver dans la rue Bourg-le-Comte,
oui.
À Nogent-le-Rotrou. Mmh. Mais sinon, il y en a des belles à... il y en a des belles au manoir de la Bourdonnière,
oui.
Que je vais plutôt appeler Maison des Champs, à Chemilly,
oui, oui. C'est ça.
En forme de lion, hein, oui. Ou de singe, ou de, vous avez quelquefois aussi des sirènes.
Oui. Alors d'ailleurs, puisque nous sommes dans le toit, eh bien, il y avait beaucoup de tuileries dans le Perche. Donc oui. On va trouver aussi beaucoup de toits en tuiles.
Principalement des toits en tuiles.
Oui.
Car l'ardoise est rare, elle est presque inexistante dans le Perche, je crois qu'il n'y en a pas, il n'y a pas d'ardoisière, et les ardoises devaient venir de la région d'Angers. Donc beaucoup de transport, donc un coût, donc pas de toit en ardoise. Sauf sur des tours très élevées, où là, la tuile ne pouvant pas se découper,
oui,
on était obligé d'utiliser l'ardoise.
Oui.
Mais on pouvait aussi utiliser le bardeau dans la partie supérieure.
Ah oui, bien sûr.
Voilà.
Alors, expliquez
le bardeau de châtaignier. Hein, la ganivelle, on appelle ça une ganivelle dans le Perche. C'est une tuile en bois, bois de chêne ou de châtaignier.
Et qui... où y en a-t-il ?
Alors, il y en a plus.
Y en a plus.
Alors aujourd'hui, on les voit à nouveau, les architectes du patrimoine en remettent. C'est souvent sur le sommet de la tour, pour la terminer, juste avant la cinguerie et l'épi de fêtage.
Oui, oui, parce que... Il y a aussi souvent de très beaux épis de fêtage. Hein.
Il y avait, il en reste peu. Mais il y en avait des très beaux.
Il y en a encore.
Oui, il y en a encore. Mais des épis de fêtage d'origine, il n'y en a plus beaucoup. Ce sont souvent des copies zingles.
Oui.
Mais il y en avait de très jolis. Il y en avait un très beau au manoir des Pérignes à Saint-Maurice-sur-Huisne.
Oui.
Et il a été vendu au 19e siècle à une collection américaine. Je crois que c'est la collection Fritz.
Ah oui.
Et ça a permis de payer la toiture.
Ah, quand même.
Oui.
Ah oui.
Donc ça devait être un très bel ange magnifique. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une copie.
Oui. Mais du moment que le toit est fait, c'est quand même l'essentiel.
Oui.
Alors aussi, de très jolies portes et très variées. Toutes, en général, toujours très petites.
Oui. Oui.
On a l'impression qu'ils étaient petits au XVIe siècle.
Alors, ils étaient petits, puis je pense aussi qu'ils rentraient toujours la tête la première en la baissant, hein, par sécurité. Mais je pense quand même, oui, qu'ils étaient beaucoup plus petits. Ces portes font au maximum 1,80 m de haut.
Maximum. Oui, au maximum.
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 Elles paraissent petites, mais aussi, pourquoi paraissent-elles petites? Parce que les sculptures font que... ça donne, on a l'impression qu'elles sont grandes grâce aux sculptures, mais on voit bien qu'elles sont petites. Alors, est-ce que dans tous les manoirs, les pierres sont sculptées autour des portes ?
Non, puisque c'est une question de moyens aussi, hein, du propriétaire, celui qui construit.
Oui.
Les plus belles portes décorées de fleurons, de pinacles. J'évoquerai la porte de la Veuve.
Oui, la Veuve.
Un beau gothique flamboyant, superbe.
Ça veut dire que c'est un très beau manoir.
C'est très beau.
La Veuve.
C'est très, très beau.
Oui.
Et puis, il y a des portes beaucoup plus simples, tout simplement en anse de panier, sans décor, avec en pierre de taille blanche.
Quand même, il me semble que les portes sont toujours assez belles, non ?
Eh bien, il y en a souvent une seule.
Oui.
Qui donne toujours sur le côté court.
Oui, puisque, toujours sur le côté
tout
court.
Tout à fait, parce qu'on ouvre rarement son manoir dans les murs de pignon, et encore moins à l'arrière.
Ah oui, jamais ça.
Très peu. Quelques petites ouvertures qu'on va appeler des jours, mais jamais de grandes portes ni de grandes fenêtres.
Alors, les portes d'entrée donc s'ouvrent en général sur la façade et elles sont parfois... Des motifs en cul de lampe. Est-ce que vous pouvez expliquer et donner quelques exemples aussi de ces motifs?
Alors, vous évoquez le cul de lampe. Alors, le cul de lampe, il faut essayer de s'imaginer donc la tour d'escalier, ronde, octogonale et ou carrée. Et pendue sur un des côtés de cette tour d'escalier, vous avez une petite tourelle en encorbellement qui permet d'accéder à une pièce de guet qui se trouve au sommet, souvent, de cette tour d'escalier.
Oui.
Et cette petite tourelle en encorbellement, et supportée sur un cul de lampe.
Voilà.
Voilà. Et alors, ça... ces culs de lampe sont très décorés.
Oui.
Exemple, mon gâteau à ce ton, la veuve aussi, oui. Ou courboyer.
Oui, courboyer. Courboyer.
Alors, ça peut prendre la forme d'atlas, ce héros de la mythologie,
oui. Ah, oui.
Qui porte la terre sur ses épaules.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Donc, qui supporte tout le poids de cette tourelle en encorbellement.
Oui. En fait, dans les manoirs, on trouve beaucoup de dessins, de sculptures, comme on en trouvait au Moyen-Âge.
Oui, oui, tout à fait. C'est donc des logis qui ont été construits au XVIe siècle. Donc, le Moyen-Âge n'est pas encore très loin.
Oui.
Voilà. Et donc, on s'inspire souvent de choses autour de nous plus anciennes.
Alors, dans votre livre, vous donnez vraiment des pages représentant avec les photos de portes, et c'est fort joli. Quelques portes aussi ont des fenêtres au-dessus.
Des jours en forme, des oculus.
Oui, et lesquels trouvez-vous les plus beaux
dans Alors, sur cette planche, mon désir était de... Donc, je les ai classées chronologiquement.
Oui.
J'ai choisi des portes qui n'avaient pas été trop restaurées.
Mm-hmm.
Donc, ces portes pourront peut-être servir à des artisans pour de futures
comme
restaurations,
modèle.
Comme
oui.
modèle, exactement. Alors là, vous étiez en train d'évoquer des jours au-dessus des portes.
Oui.
Alors, c'est pour faire rentrer un petit peu de lumière dans la petite pièce qui se trouve derrière la porte, qui est le vestibule.
Oui.
Car ces portes, à l'origine, sont souvent pleines.
Oui.
Il n'y avait pas de carreaux.
Non.
Donc, ce petit œil de bœuf ou cet oculus fait rentrer un petit peu de jour dans le vestibule.
Ah oui, c'est ça.
Et
oui.
Ça, c'est très fin 16e. Ou début 17e, les dernières années où on va construire les manoirs.
Car c'est quelquefois, c'est très très petit. Hein,
très.
Les oculus sont à peine comme une croix.
Oui.
Quelquefois. Mmh. Ouais. Mais c'est fort joli. Il y a également des détails de portes qui sont absolument sublimes. Donc, vous avez reconnu les artisans qui avaient travaillé pour ces portes.
Alors, je n'ai pas reconnu d'artisans, et bien que je pense quand même que oui, c'était souvent les mêmes, un petit peu
oui,
comme les cheminées ou les choses comme ça. Mais j'ai surtout remarqué plusieurs styles, c'est-à-dire donc au début du XVIe siècle, on a des menuiseries en bois de chêne, décorées de plis qu'on va appeler ailes de papillon.
Oui.
Hein, tout simple, un pli très simple. Et plus au milieu, on va avoir des petits plis à la serviette.
Oui.
Et à la fin du XVIe siècle, on va avoir des petits panneaux. Mmh. Et au début du XVIIe, on va avoir des petites portes de style Louis XIII, là aussi à panneaux.
Oui. Alors, ce qui est aussi charmant dans les manoirs, ce sont les fenêtres. Et certaines fenêtres ont des coussièges.
Oui. Alors, les fenêtres sont très souvent donc percées sur la façade.
Oui.
Et je le répète, rarement dans les murs de pignon, oui. Très peu derrière.
Parce qu'en fait,
c'est pour se protéger.
Le soleil.
C'est,
oui.
Alors, c'est le soleil, mais c'est surtout lié à la protection.
Oui. Hein? Mais aussi, le mur où il n'y a pas de fenêtre, c'est le mur qui est plein nord.
Alors, souvent, lors de la construction du manoir, il est orienté.
Oui. Hein?
Alors, derrière le manoir, on plantait très souvent la futaie.
Oui,
donc, oui, un endroit sombre. Et surtout, l'ennemi peut arriver par derrière. Donc, il faut tout enfermer
bien sûr.
Dans la cour et tout protéger.
Oui. Alors, j'en reviens au coussiège.
Alors, le coussiège, c'était un endroit sûrement qui permettait à la maîtresse de maison de coudre.
Bien sûr.
Et peut-être au maître de maison de lire.
Oui.
Voilà. C'est un petit banc de pierre. Qui est installé dans l'embrasure de fenêtre.
Et à Courboyer, que tout le monde peut visiter, eh bien, on
Courboyer
peut voir ça.
Ou la Veuve,
ou la
il y a
Veuve,
très
oui.
beaux coussièges. Alors souvent, ils ont été là aussi retirés, abîmés, mais il en reste de très beaux.
Et j'en arrive aux croisées, les fenêtres absolument magnifiques. Hein, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait, sur la façade.
Oui, oui, oui. Alors, il y en a plein, il y a plusieurs types. Il y a la croisée de fenêtres.
Oui, la croisée de fenêtres.
Donc, c'est quatre fenêtres
oui.
partagées par un meneau.
Oui.
Alors, c'est la pièce de pierre qui est verticale et traversée par une traverse. Donc, c'est
Oui.
la pièce horizontale. Et le
Voilà.
tout forme une croisée de fenêtres.
Voilà. Alors, il y en a qui sont très belles et qui ont encore des vitraux, d'ailleurs.
Oui, tout
Ça,
à
ce sont...
fait.
Oui.
Et
On
depuis
reconnaît...
quelques années, les vitraux sont remis
Oui.
en place,
Oui, ce qui est
qui est
quand même...
assombri.
Voilà.
Ouais.
Ça, l'intérieur des manoirs n'est pas souvent très gai parce que, comme le propriétaire a voulu vraiment faire comme au XVe siècle, eh bien, c'est assez sombre, en fait. Les
Exactement.
pièces sont assez sombres.
Oui. Alors ça, c'est
Et...
surtout les propriétaires qui cherchent à reproduire le manoir
Elle est
comme
identique,
il était,
oui.
oui.
Et vous, quelles sont les fenêtres que vous aimez le mieux dans tous ces manoirs?
J'aime bien les fenêtres donc de la première moitié du XVIe siècle où il y a beaucoup de le chanfrein
Ouais.
donc le tour est très très mouluré.
Oui.
J'aime moins celle de la fin du XVIe siècle où là les meneaux et les traverses sont sans décor très très raides. De toute façon, dans quelques années plus tard, ils vont disparaître et être remplacés par
Oui.
des traverses et des meneaux de bois avant de complètement disparaître.
Alors, à Vauvineux, il y a
Il y en a une très très belle, oui,
très
tout à
belle
fait.
à
Ouais.
Vauvineux,
Ouais.
et il y a même des décors, des sculptures sur la fenêtre, ce qui est très
Exactement. Et
beau.
puis aussi, souvent au rez-de-chaussée, vous avez sur ces croisées une protection, une grille.
Ah oui, c'est ça.
Il y a une très belle grille à Vauvineux. Il y en a encore une plus belle, peut-être au Plessis, à
Oui,
Dancé,
à
c'est peut-être la plus
danser,
belle.
oui.
Hein. Car souvent, toutes les fenêtres du rez-de-chaussée étaient protégées de grilles pour éviter qu'on pénètre à
L'attaque,
l'intérieur du
oui.
logis. Et jamais au premier étage, ou
Non,
très
ah
rarement.
oui. Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Éric Ivard et nous évoquons les manoirs dans le Perche. Nous partons de son ouvrage qui s'appelle Manoirs et maisons des champs du Perche. Alors nous en étions maintenant aux galeries parce que dans certains manoirs, il y a des galeries qui permettaient de voir mieux le jour, n'est-ce pas?
Alors, à la fin du XVIe siècle, des galeries, loggia, vont être ajoutées à ces logis qui étaient des grands logis sans lumière, avec des petites fenêtres, comme je l'évoquais tout à l'heure,
Oui.
avec des fenêtres que du côté court. Eh bien, des galeries sont rajoutées sur les façades, qui permettent donc de se promener, d'avoir plus de lumière, de lire.
En fait,
De
ça, c'était
coudre
déjà
aussi.
des gentilshommes qui pensaient avoir ça, qui
Oui,
voulaient
et
avoir
je
ça.
pense que ce sont des gentilshommes aussi qui ont vu la lumière et ces loggias pendant les guerres du
En
16e siècle en
Italie,
Italie,
oui,
où
c'est
là il
ça.
y a plus de lumière. Elles sont pas très appropriées au climat de notre région parce que il n'y avait pas de carreaux à ces loggias
Oui,
généralement. Donc c'était
mais
des
l'été,
galeries ouvertes.
ça donne de la gaieté quand même.
Alors l'été, exactement.
C'est un peu
Alors la
les...
plus jolie
Oui?
serait celle de la
Oui,
Fresnaie
la
à
Fresnaie.
Saint-Germain-de-la-Coude,
Oui.
construite donc par Mathurin de Fontenay, et
Parce que
celle
oui,
de...
on ne l'a pas dit, excusez-moi, mais les Fontenay sont omniprésents dans les manoirs du
Surtout à la
Perche.
fin du XVIe siècle,
Oui.
grâce à la réussite de Pierre de Fontenay, un petit cadet qui a fait profiter de sa gloire et de sa fortune à toute sa famille.
C'est Saint-Germain-de-la-Coudre, ça.
La Fresnaie, oui. Et puis, on peut évoquer aussi la galerie de l'Engenardière,
Oui.
qui a été rajoutée après coup.
Oui, ça, c'était une volonté du propriétaire
Oui.
de voir plus clair,
Oui.
de se moderniser aussi.
Cette petite galerie, en fait, relie son logis à une petite tour d'angle.
Alors, si nous référons maintenant à l'intérieur du logis, ce serait intéressant de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors,
Alors,
oui.
Pardon, Christiane. Alors, il y a, donc, on l'a évoqué aussi dans l'émission précédente, donc dessous, souvent, une cave en partie.
Oui.
Au rez-de-chaussée, deux pièces.
Oui.
Cuisine, souvent, plus la pièce principale, quelquefois aussi chambre principale. Et puis à l'étage, deux autres pièces.
Et est-ce que dans les chambres, il y avait des fresques de dessiner ?
Alors, les chambres du premier étage sont très souvent plus décorées que la chambre du rez-de-chaussée. Il y a quelquefois des couleurs qui sont restées entre les solives, des couleurs ou des plafonds genre de frise.
Oui, c'est ça.
Mais vous avez aussi des carrelages.
Oui.
Carrelages qui sont estampillés de dessins. Les plus beaux se trouvaient à l'Épinay, à Saint-Hilaire-sur-Aire,
oui.
Ou à la Revaudière à Dancé.
À la Fresnaye aussi.
À la Fresnaye,
oui.
Quelques restes, vestiges qui ont été posés dans une vitrine.
Oui.
Voilà.
Alors, il y avait aussi des greniers.
Oui.
Alors, très important.
Tous ces logis sont couverts de greniers. Le grenier est une pièce très importante. La cave en dessous permet de mettre donc les boissons.
Oui.
Mais les greniers permettent de conserver les céréales ou les petits pois ou les légumes secs.
Oui, parce que comme vous l'avez bien expliqué, eh bien, c'était un cultivateur qui habitait souvent là.
Oui, et puis il faut nourrir toutes ces familles.
Voilà.
Alors, les nourrir et les abreuver.
Voilà. Alors, nous sommes dans la chambre. Il y a aussi des latrines, ne l'oublions pas.
Alors, les latrines se situent très souvent donc dans les chambres, bien sûr, ou dans la tourelle, à mi-chemin, entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc, ça permettait ainsi donc d'aller des pièces du rez-de-chaussée, monter quelques marches dans l'escalier et trouver les latrines.
Oui.
Ou, lorsqu'on se trouvait dans les chambres de premier étage, descendre quelques marches et trouver ses latrines.
Alors, est-ce qu'il y a une différence entre cabinet d'aisance et latrine ? Ou c'est à peu près pareil ?
Oh, je dirais que c'est une question de vocabulaire. On va dire cabinet d'aisance plus pour le 19e siècle.
Oui.
Mais le terme qu'on trouve au 16e siècle, c'est le mot latrine.
Voilà. Alors, donc ça, elles étaient au-dessus des douves.
Pas obligatoirement, mais elles donnent toujours derrière le logis.
Oui.
Là où il n'y a pas d'ouverture.
Oui. Hein. Donc, si ce ne sont pas des douves, c'est le jardin.
Ça peut être le jardin, oui, parce qu'on bien sûr, il n'y a rien de perdu. Hein, tout est transformé.
Oui, et en fait, ça se trouve quand même dans le mur.
Oui, dans l'épaisseur du mur.
Dans l'épaisseur du mur.
Tout à fait. Il y a un bel exemple à Soisé, à la Perrière, où donc dans une pièce, au fond, il y a un placard. On ouvre la porte de ce placard et là, on voit un siège avec un trou.
Oui.
Et donc, on pouvait s'asseoir à l'intérieur de ce placard, même fermer la porte.
Oui, ça c'était.
Et donc, bien sûr...
Il y a le royaume aussi à Préau.
Le royaume à Préau, la Tarénière à Préau, Villiers à Saint-Germain-de-la-Coude. Il y en a à tous les étages à Courboyer.
Oui, donc alors là, à Courboyer, c'est quand même là le plus chic.
Ah, c'est le plus chic, il y en a à tous les étages.
Ouais. Oui.
Toilettes à tous les étages.
Oui,
et quelquefois, ces toilettes sont accompagnées de petits lavabos de pierre.
Ah oui, donc, à Courboyer, il y a des lavabos.
Oui.
Ah oui.
Oui, des petites cuvettes en pierre dans l'épaisseur des
donc
murs.
Donc ça, c'est quelle époque ?
Eh bien, Courboyer, c'est 1500.
C'est 1500.
C'est même un petit peu avant 1500, ouais. Puisqu'il y a quelques années, quelques mois, on a daté la charpente.
Ah oui.
Et tous les arbres ont été coupés vers l'année 1496.
80... Ah oui, ça c'est facile de retrouver,
oui.
Effectivement.
Oui, avec les techniques modernes.
Donc les propriétaires étaient déjà très très modernes.
Très très modernes. Le 16e siècle, on a inventé peut-être oui un petit peu ces latrines. Et puis le 17e, le 18e, le 19e, mais ces latrines, on les voit, oui, elles vont s'installer au fond du jardin.
Oui,
et on va être moins propre, je crois, qu'au 16e siècle.
Oui, moi je crois également.
Oui.
Oui. Alors cheminée aussi, très belle cheminée.
Oui, alors les cheminées, bon, c'est l'élément principal, hein.
Oui.
C'est le grand décor. Lorsque vous rentrez dans une pièce, sur le mur donc, de pignon, vous avez toujours une cheminée. Donc dans un logis à quatre pièces, deux au rez-de-chaussée, deux à l'étage, vous avez quatre cheminées.
Oui, c'était impossible qu'il n'y ait pas de cheminée, parce qu'en fait c'était le feu, il n'y avait que ça pour réchauffer la maison.
Oui, et puis dans la cuisine,
puis la
pour,
cuisine.
Pour préparer les aliments.
Alors j'en arrive maintenant... aux bâtiments qui étaient en plus, si vous voulez. Je pense au pigeonnier et je pense à la chapelle. Alors, commençons par le pigeonnier.
Alors, le pigeonnier se situe souvent dans un des angles du circuit ou du pourpris. C'est le mot qu'on c'est le mot qu'on donne à cet ensemble de bâtiments et de murs qui enferment le logis.
Oui.
Le colombier peut avoir toutes les tailles, toutes les formes.
Oui, ça dépend de l'importance...
De la terre, de la très terre. Souvent. Oui. Et puis de la puissance du personnage et de son argent.
Oui, mais ça va peut-être ensemble.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on peut avoir des parce qu'à l'intérieur donc du pigeonnier, vous avez souvent des cases qu'on appelle des boulins.
Oui.
Qui peuvent être commencer au rez-de-chaussée et finir au dernier étage, ou commencer qu'à mi-étage.
C'est souvent à mi-étage.
Oui, et dessous, vous avez un cellier ou une autre pièce.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Alors, ces colombiers donc abritent des pigeons. Mmh. Alors, les pigeons, c'est un élément important dans l'histoire des manoirs. Hein. C'est une source de nourriture.
Oui.
Les jeunes pigeonneaux qu'on mange avant qu'ils s'envolent, jamais les vieux pigeons, on récupère les œufs, parce que bon, on peut pas aussi avoir laissé éclore tous ces pigeons, on en aurait beaucoup trop. Et puis on récupère un élément très important, c'est la colombine.
Oui, c'est ça, l'engrais.
C'est l'engrais qu'on met dans les potagers.
Oui.
Voilà.
Donc en fait, ils pouvaient vraiment vivre en autarcie.
Exactement, dans un manoir, on a donc le colombier, on avait aussi les garennes, donc pour élever les lapins, on pouvait très bien avoir des garennes donc en bois, en eau. Donc on vit en autarcie.
Oui.
On n'a pas besoin de sortir. On produit tout sur place.
Alors j'en arrive à la chapelle. La chapelle qui est quelquefois très importante.
Alors la chapelle est souvent présente lorsque le manoir est très isolé et très loin de l'église paroissiale.
Oui.
Là, le gentilhomme demandait l'autorisation à l'évêque de la possibilité donc de construire une église ou disons une chapelle ou un oratoire pour lui, sa famille et ses domestiques.
Oui.
Car la messe du dimanche est obligatoire, je dirais presque à cette époque, et que lorsque c'est trop loin, ou qu'il y a trop de ruisseaux, de vilains chemins à traverser, donc le gentilhomme veut avoir son chapelain à demeure, qui officie donc tous les dimanches ou plusieurs fois la semaine, selon les moyens de la fondation.
Oui. Et est-ce que vous savez à qui sont dédiées la plupart des chapelles ?
Alors, les premières chapelles sont dédiées à des saints qui étaient donc très, très à l'honneur au lendemain de la guerre de Cent Ans.
Oui, je pense à Catherine, Sainte-Catherine.
Catherine, Georges.
Oui.
Mais sinon, beaucoup de Notre-Dame.
Beaucoup de Notre-Dame. Alors,
beaucoup à la Vierge.
Alors, quelles sont les chapelles les plus anciennes ?
Alors, Veuvineux, début 16e, La Vauve, début 16e aussi.
Cherpérine
a été fondée, on pense, elle est citée une première fois en 1496, mais on n'a plus cette chapelle du Moyen-Âge.
Oui.
Donc on a aujourd'hui cette chapelle moderne. Brezol, à Condo,
oui.
Ça c'est très joli, qui a été pendant quelques années un prêche protestant.
Eh bien, je crois que nous avons fait un beau parcours dans ces manoirs. Un grand merci à vous. Et je rappelle le titre de l'ouvrage dont je me suis servi pour faire cette conférence. Éric Ivard, Manoir et Maison des Champs du Perche, aux éditions de l'Étrave. Un grand merci à vous, Éric Ivard, et à bientôt pour d'autres émissions sur notre antenne. Cette émission, vous pourrez la retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à vous.